Ben, je pense vous aider et avant de procéder, je vais prier, donc que le Seigneur soit à l'œuvre. Donc prions si vous voulez bien. Oui Seigneur, nous avons prié que tu nous parles pour que nous comprenions ton enseignement divin, que dans ta grâce souveraine, tu nous instruis par ton Esprit Saint. Parle pour que nous obéissons à tes ordres aujourd'hui. Donc, forme-nous comme nous avons chanté pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voici un récit. Nous avons lu deux des trois chapitres de ce bloc de chapitres qu'on essaie de faire ce matin, qui nous fait découvrir, surtout en fait le dernier chapitre qu'on n'a pas encore lu, un événement majeur dans l'histoire de la Bible. Mais l'accent ne tend pas sur l'événement en tant que tel, mais sur le rôle de quelques acteurs clés lors du déroulement de cet événement. C'est un peu, si vous voulez, comme un reportage de guerre, qui, au lieu de se focaliser sur le plan large de la bataille, suit deux ou trois personnages clés. Le plan large est bel et bien là pour nous dans le début du chapitre 39 que nous n'avons pas lu. La 9e année de Sédécias, roi de Juda, 10e mois, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et l'assiégea. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut ouverte dans la ville. Alors, tous les princes du roi de Babylone vinrent s'asseoir à la porte du milieu. Donc, à ce moment-là, les Babyloniens ont saisi cette ville de Jérusalem. La ville, donc, a chuté après un siège de 18 mois. Alors, nous sommes en l'an 588 avant Jésus-Christ, quand ce siège commence. Et nous sommes donc au milieu de l'année 587 avant Jésus-Christ, lorsque, 18 mois plus tard, le siège termine. Il y avait, à ce moment-là, chapitre 52, verset 6, nous dit, famine dans la ville. Ils ne pouvaient plus tenir dans la ville. À la fin de ces 18 mois, on 587, la ville est rasée par des Babyloniens. La maison de l'Éternel, le temple, brûlée. La maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem, brûlées. Toute maison de quelque importance, brûlée. Les murailles qui entouraient Jérusalem, démolies. Et donc, notre récit trace l'histoire du siège qui précédait de par une série d'entretiens, vous avez constaté cela sûrement lors de la lecture, du prophète Jérémie avec Sédécias. Depuis 605, donc déjà une petite quinzaine d'années avant ces événements, lorsque les Babyloniens remportent une victoire décisive sur les Égyptiens, c'est les Babyloniens maître du Moyen-Orient. Du coup, la politique pro-égyptienne poursuivie par Sédécias et d'autres fils de Josias n'était plus une politique très rassurante. Il y a déjà eu un premier siège 10 ans auparavant, suite à une révolte de l'un des fils de Josias, Jehoiakim, pendant lequel ce Jehoiakim il est mort. Sédécias, installé par les forces d'occupation, les Babyloniens, après cela, règne, lui, une dizaine d'années. Pendant ce temps, lors du passage de pouvoir d'un nouveau pharaon en Égypte, il décide, Sédécias, de riposter de nouveau contre les Babyloniens. Il jure l'allégeance à l'Égypte. Babylone ne peut plus tolérer cela. Et alors, c'est en 588 que Nabucodonosor envoie ses troupes et s'apprête à raser Jérusalem. Donc, voilà où nous en sommes au début du chapitre 37. Et ce que je propose, c'est de parcourir par la suite, vous allez voir le plan que vous avez ici sous vos yeux, parcourir donc les grandes lignes du narratif avec nos deux premiers points que vous voyez là, et ensuite tirer quelques conclusions pour nous. Alors, comme vous savez, c'est les 20 km de Bruxelles ce matin. Paulin, l'un de nos frères anciens de notre église, il marche les 20 km. Et mon objectif, c'est de parler jusqu'à ce que Paulin termine les 20 km. Et donc, on y est pour au moins 4 heures, il me semble. Donc, préparez-vous et soyez encouragés si on arrive à terminer avant cela. Mais on peut quand même féliciter Paulin si on reste encore jusqu'à ce moment-là. Donc d'abord, le roi et ses conseillers. Le chapitre 37, verset 2, souligne l'attitude qui règne dans la cour de Jérusalem. Ni lui, ni les gens de sa cour, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que le Seigneur prononça par l'intermédiaire de Jérémie, le prophète. Pourtant, verset 3, le roi Sédécias envoie l'un de ses serviteurs à donner un message à Jérémie. « S'il te plaît, prie pour nous, le Seigneur, notre Dieu. » Mais qu'est-ce qui provoque cette demande? Au moment de ce message, verset 5, il y a eu un soulagement dans l'assiègement, car l'armée égyptienne s'est mobilisée pour venir en aide aux Judéens. Conséquence, pendant un moment, verset 5, les Chaldéens, à savoir donc les Babyloniens, qui assiégeaient Jérusalem, s'en éloignèrent pour redéployer leur force contre les Égyptiens. Et cela fait croire à des responsables à Jérusalem que leur désir d'être libérés des Babyloniens pourrait se réaliser. C'est comme s'ils disent, vous voyez Dieu, il est en train d'arranger les choses, enfin. Jérusalem ne va pas tomber. L'Égypte va repousser cet ennemi. Nous avons eu raison de changer de camp. Au lieu de croire la parole de Dieu, prophétisée par Jérémie dès le début de son ministère, que l'exil va avoir lieu, que les Babyloniens vont remporter la victoire, que Jérusalem tombera, non, eux, ils continuent à s'illusionner. Et donc, verset 9, ainsi parle le Seigneur. Ne vous faites pas d'illusions. En disant, les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Même si vous battiez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, s'il ne restait d'eux que des hommes transpercés, chacun d'eux se relèverait dans sa tente pour mettre le feu à cette ville. Alors, vous voyez ce qu'il est en train de dire là, Jérémie. C'est si certain aux yeux de Dieu la chute de Jérusalem que même si les Babyloniens ne comptaient que quelques guerriers blessés, cela suffirait à leur assurer la victoire. Mais ni Sédécias, ni ses conseillers ne veulent écouter ce discours-là. Pour eux, Jérémie est non seulement un rabat-joie, mais aussi un traître. Et donc, l'épisode suivant, au chapitre 37, dans les versets 11 à 16, lorsque Jérémie essaye de sortir de Jérusalem pour recevoir sa part d'un héritage familial, on ignore les détails. Pendant cette période de relâchement où c'était possible de quitter la ville, on l'accuse d'abandonner son peuple pour se rendre dans le camp des Babyloniens. Verset 13, « Tu te rends aux Chaldéens. » Non, c'est faux. Mais Yiria l'arrête et les princes ensuite frappent Jérémie, le prennent captif dans un cachot dans la maison d'un certain Jonathan. Jérémie, verset 16, il resta longtemps. Ensuite, il y a une audience privée de Jérémie avec le roi, car il s'agit toutefois d'un roi indécis, craintif. Sûrement à ce moment-là, car la situation à Jérusalem empire. Mais au lieu d'afficher ses couleurs, reconnaître ses erreurs, il agit encore en coulisses. Et du coup, il interroge Jérémie secrètement, dit le texte. Y a-t-il, verset 17, une parole de la part du Seigneur? Donc après tous ces mois au cachot, après cette persécution, après le fait de ne pas avoir été écouté pendant tout un temps, que dirait le prophète à ce moment-là? Ce que le roi veut entendre? Non, ce qui est vrai. Et donc, il le dit très succinctement à ce stade. Oui, et il dit sans détour, tout sera livré au roi de Babylone. Jérémie profite de cette audience inattendue pour plaider ses souffrances injustes et pas méritées, verset 18. En quoi ai-je péché contre toi, contre les gens de ta cour et contre ce peuple pour que vous m'ayez mis dans cette maison de détention? Le roi ordonne qu'on prenne soin donc de Jérémie sous surveillance dans la cour de garde et qu'il reçoive sa part de la distribution quotidienne du pain. Mais le chapitre 38 s'ouvre avec les princes de Juda qui entendent parler une fois de plus du ministère de Jérémie. 38:2. Ainsi parle le Seigneur. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera sa vie. Sa vie sera sans boutin et il vivra. Ainsi parle le Seigneur, cette ville sera vraiment livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et leur réaction à cet appel de la part de Jérémie de capituler, verset 4, c'est de retrouver le roi pour demander la tête de Jérémie. Et tactique classique lorsque quelqu'un véhicule un message différent de celui que nous avons envie d'entendre, on le fait passer, celui-là, pour un traître, un danger pour les autres. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. En fait, c'est le contraire. Mais ils sont aveugles à cette réalité. Le roi livre donc Jérémie entre leurs mains, verset 5. C'est minable, n'est-ce pas, que le roi conclue « Le roi ne peut rien contre vous. » Il est le roi. En vrai, le roi ne peut rien contre ce que Jérémie dit. Mais c'est bien cela qui va se réaliser, car les conseillers lui disent ce que les conseillers lui disent est terriblement erroné. Mais à ce stade tardif, où la stratégie de la ville de Jérusalem est bien délimitée, ils s'entêtent dans leur vision de ce qu'il faut faire. Jérémie est placé dans la citerne d'un certain, verset 6, Malkia, fils du roi. Donc il s'agit d'un jeune homme. Pas plus, nous supposons, de 15-16 ans, ce Malkia, car le roi lui-même, Sédécias, n'a pas plus que 32 ans. Et comme c'est souvent le cas avec les jeunes hommes, adolescents ou jeunes adultes avec un peu de testostérone, lorsque cela est mélangé avec le privilège d'un statut élevé, que font-ils? Ils foncent pour démontrer aux autres leur pouvoir. Peut-être c'est un peu amusant, sans doute pour eux, d'agir comme ils agissent. Bien qu'ils n'aient pas, eux, le courage de tuer Jérémie, car ils voulaient ultimement que c'est le roi qui prenne cette décision-là, mais d'une certaine manière, leur réaction revient au même, car coincé là où il est dans la boue, au fond de la citerne, Jérémie s'enfonce. Et il allait, le texte nous dit, y rester jusqu'à ce qu'il meure de faim. Donc voici le roi et ses conseillers. Au lieu d'agir en conformité avec la parole de Dieu, ils méprisent ce que Dieu leur dit par la bouche de son prophète. Et voilà pourquoi j'ai repris le langage du psaume 2, que peut-être vous connaissez, qui parle de ceux qui se sont ligués contre Dieu, contre son serviteur. Au lieu de trouver leur plaisir, psaume 1, dans la loi de l'Éternel, de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Ils ont choisi une autre voie, mais c'est une voie qui mène à la destruction. Il y a en fait un dernier entretien avec Sédécias, à la fin du chapitre 38, une toute dernière chance pour ce roi, verset 15. Jérémie est lucide là-dessus. « Si je te le dis, ne feras-tu pas mettre à mort? Si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Ce que Jérémie donc lui dit témoigne par la suite de l'immense patience de Dieu. Verset 17, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu sors au-devant des princes du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas détruite par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Oui, la ville tombera, mais toi, tu auras la vie sauve et la ville ne sera pas détruite. » Comment réagit-il, le roi, verset 19? Bon, il a peur de ce qui lui arrivera dans ce cas des Judéens qui se trouvent déjà à Babylone. « Je crains qu'on ne me livre à eux et qu'ils ne me brutalisent. » Encore donc une promesse de Jérémie, verset 20. « On ne te livrera pas. Écoute le Seigneur, je te prie. En ce que je te dis, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Mais, 21, « si tu refuses de sortir, voici la parole que le Seigneur m'a révélé. Toutes tes femmes et tes fils seront menés aux Chaldéens et toi, tu ne lui échapperas pas. Tu seras pris par le roi de Babylone qui mettra le feu à cette ville. » Au lieu donc d'avoir Jérémie enfoncé dans la boue au fond de la citerne, ce serait le tour, verset 22, de Sédécias. Et c'est bien ce qui lui arrive au chapitre 39. Une fois capturé, verset 6, le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux, à Ribla. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit attacher avec des entraves de bronze pour l'emmener à Babylone. Voilà, alors, en ce qu'il en est du roi et ses conseillers. Premier grand point, mais il y a encore du travail à faire, donc restez accrochés. Parce qu'ensuite, on tourne le regard vers le prophète et le fonctionnaire éthiopien. Et bien entendu, le contraste avec Jérémie, lui fidèle à la parole de Dieu, est frappant. Mais il ne s'agit pas uniquement de Jérémie, car le texte met en relief, verset 7 du chapitre 38, cet autre personnage courageux, Ebed-Melech, le Cushite ou l'Éthiopien. C'est un étranger alors en Israël, mais haut fonctionnaire dans la maison du roi. Et il apprend ce qui arrive à Jérémie dans la citerne du fils du roi, et au lieu d'être intimidé par ses jeunes conseillers, par le caprice du roi, il le trouve, pas en secret, mais en public, à l'une des portes de la ville, et il lui dit la vérité, verset 9. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait à Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il y mourra de faim quand il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donne l'ordre qu'Ebed-Melech peut le libérer. Et ce dernier se rend avec 30 hommes pour faire remonter Jérémie de la citerne. Ce qu'il fait, et c'est une belle touche, n'est-ce pas, avec considération, car ils se servent des vêtements usés pour que les cordes en dessous des bras de Jérémie, lorsqu'on le monte de la citerne, lui fassent moins mal. C'est courageux et compatissant. Et cela ne sera pas oublié par Dieu. Car à la fin du chapitre 39, verset 15, après avoir entendu le sort du roi à Babylone, on apprend ce que Dieu avait dit auparavant par la bouche de Jérémie au sujet d'Ebed-Melech. Verset 16, « Va parle à Ebed-Melech, le Cushite. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. je fais venir sur cette ville ce que j'ai prononcé, non pas pour son bonheur, mais pour son malheur, cela arrivera en ce jour devant toi. Mais en ce jour-là, je te délivrerai. Déclaration du Seigneur. Et tu ne seras pas livré aux hommes qui t'effraient. Je te ferai échapper, tu ne tomberas pas par l'épée. Ta vie t'aura son butin parce que tu as mis ta confiance en moi. Déclaration du Seigneur. Au lieu donc d'être passif, au lieu de se taire, Ebed-Melech a agi par fidélité à Dieu. Lui qui avait parlé Dieu à travers son prophète. Et la conséquence est qu'il sera délivré. Sauvé. Voici le sort dans cette histoire de celui qui ne caresse pas dans le sens du poil, qui a le courage d'afficher sa confiance en Dieu. Et cela nous renvoie aussi au sort de l'homme dont parle Dieu à la fin du psaume 2, celui qui se réfugie dans le Fils, loin de Dieu. Qu'est-ce qui est marqué ? Heureux. Tous ceux qui se confient en lui. D'une certaine manière, j'espère que cette façon de parcourir les chapitres 37, 38 et un peu 39 facilite maintenant ce qu'il nous reste à faire, tirer des leçons pour nous. En effet, ce texte stimule chez le premier lecteur qui se trouvait en exil au moment où ils reçoivent donc ce que Jérémie a écrit, a dit. Et donc, lorsque ça arrive à nous, aussi en exil, nous cheminons, nous l'avons déjà vu, jusqu'à notre patrie céleste. Parce que cela souligne le besoin d'assimiler un certain nombre de vérités à notre compréhension de la foi, de notre foi, de la foi chrétienne. Et donc, voici plusieurs choses maintenant à retenir, la deuxième partie de ce message. Première chose, la religion et la rébellion. Ce récit souligne, haut et fort, que la religion, même une religion orthodoxe, ne nous protège pas forcément d'un cœur rebelle. Ceux qui rejettent la parole de Dieu dans ce récit sont ceux qui, d'un point de vue extérieur, confessent une foi en Dieu avec leur bouche. Sédécias pratiquait le rituel sacrificiel au temple. Il consultait le prophète de Dieu. Mais il refusait de se soumettre à Dieu qui se révèle dans sa parole. Donc Dieu n'est pas impressionné par nos pratiques religieuses externes, si ces pratiques ne sont pas accompagnées d'un attachement profond et personnel à ce qu'il nous dit dans sa parole. Même dans notre milieu, nous pouvons réclamer que Dieu approuve quelque chose que nous faisons quand nous observons qu'il à orchestrer l'une ou l'autre circonstance de notre vie ainsi, malgré le fait que le comportement que nous réclamons va à l'encontre de ce que Dieu dit. Exemple, que c'est OK, que je néglige ma responsabilité de fréquenter régulièrement une église locale, car il m'a donné une chouette opportunité de pouvoir acheter une maison très loin d'une église. C'est pas grave que je ne fréquente plus une église, car vous savez, j'ai toujours ma foi, je prie, Dieu reste toujours mon Dieu. Oui, mais au lieu d'être ton Dieu qui t'a créé, toi, et qui demande que toi tu l'écoutes, il devient ton Dieu dans le sens que toi tu le crées, conforme à ce que toi tu veux. Cela a l'air, un tel discours, religieux, convaincant même. Mais c'est toutefois rebelle, car tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Vous vous souvenez de Jésus et ce qu'il disait en Matthieu chapitre 7, verset 22 à la fin du sermon sur la montagne? Beaucoup, beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? En ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi il continue le test décisif d'un disciple de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui entend les paroles de Jésus-Christ et les met en pratique. Le chrétien authentique est quelqu'un qui est attaché à ce que Dieu dit, peu importe ce que cela nous coûte. Et cela nous mène à ce deuxième constat, la puissance et la lâcheté. Car Cédécias, bien entendu, c'est un homme puissant, n'est-ce pas? Le roi. Mais il est lâche. D'une certaine manière, il admire, lui, Jérémie. Il reconnaît que Jérémie est un prophète authentique. Pourquoi sinon toutes ces audiences avec lui? Mais il est tout le temps accablé par ce que les autres pensent de lui, ce que les autres veulent de lui. Bien que puissant, il est à la proie des autres, il est terriblement faible. Ça nous fait penser à d'autres exemples, peut-être dans la vie politique ou autre, où nous voyons cela. Cédécias s'installe dans une lignée de personnes semblables dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a Hérode, qui parfois écoutait Jean-Baptiste avec plaisir. Mais lorsqu'il est piégé par sa fille Hérodias, sa mère aussi, qui lui demande la tête de ce Jean qui l'appréciait d'une certaine manière, le texte dit que le roi fut attristé. Mais à cause de ses sermons et des invités, il ne voulut pas refuser. Lâche et faible. Il y a Pilate, lors de la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas, qui essaie, lui, de se débarrasser de sa propre responsabilité en se lavant les mains, en déclarant « Je suis innocent du sang de ce juste ». C'est vous que cela regarde. Jésus lui avait dit, juste avant, « Toute personne qui est de la vérité, « écoute ma voix. » Comment avait-il répondu pour essayer de disculper sa propre culpabilité? Qu'est-ce que la vérité? Donc le meilleur moyen de désobéir à la vérité, c'est de nier qu'il y en a une. Mais cet homme, toutefois, agit avec peur, Pilate, car son épouse a eu un rêve à son sujet. Faible et lâche. Il y a d'autres exemples. On n'a pas le temps de voir tous ces exemples. Judas, bien entendu. Félix, le gouverneur romain, en acte 24. La liste est longue. Et nous alors, présents ici au culte, mais sensibles à ce que Jésus-Christ nous dit, déterminés humblement de poursuivre la voie que lui, il exige, de repentance et de foi, ou content de tenir encore Jésus à distance, comme étant d'une certaine manière un personnage important, oui, Dieu même peut-être, oui, mais pas forcément mon Dieu à moi, le Dieu qui peut me dire dans sa parole ce qu'il exige de moi, et que cela prime sur toute autre parole. Que cela soit la parole de mes amis, dont l'estime me tient parfois terriblement à cœur, la parole de mes collègues, devant qui ma réputation compte beaucoup, la parole d'un petit ami que je ne veux surtout pas perdre, la parole d'un membre de la famille dont le respect me pèse. Connaître la vérité dans la bouche de Jésus-Christ et pourtant se détourner de ce qu'il dit, c'est la plus grande tragédie qu'il soit. Il est tout à fait possible d'être puissant, performant, impressionnant, intelligent, influent dans ce monde. Mais êtes-vous en même temps lâche? Il faut avoir l'écho de ce que Jésus-Christ a dit dans nos oreilles. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre, comme Pilate, comme Judas, comme Hérode, comme Félix, comme Sédécias, son âme? Cela nous mène, bien sûr, ce troisième constat, la peur et le courage. Car au lieu de laisser libre cours à la peur, une peur d'une certaine manière légitime, n'est-ce pas, vu la situation de Jérémie d'abord dans le cachot et ensuite dans la citerne, et vu la puissance de ces jeunes qui agissent presque en toute impunité dans la ville de Jérusalem à cette époque, Jérémie et Ebed-Melech agissent avec courage. Sans se soucier de leur propre sécurité, ils agissent de façon intègre, bien que cela soit coûteux pour eux. Ebed-Melech, il aurait pu se taire. Personne ne lui a demandé de se déclarer du côté de Jérémie. Il aurait pu dire dans la sécurité de son foyer, en regardant sur la télé, je sais qu'il n'y avait pas de télé, les actualités de l'époque, « Oh, combien c'est triste !» Ou même, c'est terrible, c'est que ce qui arrive à Jérémie, c'est injuste, n'est-ce pas cela? Tout en étant muet devant le roi. Mais il agit. Il se met en danger par respect pour le Seigneur et son prophète. Et donc, encore les paroles de Jésus dans ce même texte de Marc, chapitre 8. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le chrétien suit un sauveur crucifié. Et qui comprend donc que si nous le suivons, nous le suivons jusqu'à la mort. La mort à nous-mêmes, à mes intérêts égoïstes, à moi, et la mort même physique. Si le Seigneur nous le demande, parce que de la souffrance d'ici la nouvelle création, il y en a pour le peuple de Dieu. Parce que nous suivons un sauveur qui, aux yeux du monde, est risible, qui est faible, qui porte l'opprobre de la défaite. Et donc, laissez-moi vous demander si votre foi, aujourd'hui, vous coûte quelque chose. Où est-ce que vous vous trouvez confortable dans votre vie de spectateur? Admiratif peut-être, mais pas engagé. Pas en train de vous sacrifier pour la cause de Jésus-Christ. C'est pas que nous soyons trop occupés pour être au service d'une manière ou d'une autre au sein d'une église locale. Il se peut que nous soyons trop égoïstes pour nous intéresser aux autres qui se trouvent parmi le peuple de Dieu. Il se peut que nous soyons trop matérialistes pour mettre de l'argent de côté pour faire avancer le royaume de Dieu. Il se peut que nous soyons trop autosuffisants pour consacrer du temps à prier pour l'avancement du royaume de Dieu. Il se peut que nous soyons trop populaires pour vouloir mettre notre propre réputation en danger pour le royaume de Dieu. Il se peut que nous soyons trop timides pour vouloir s'afficher chrétiens devant les autres. Il se peut que nous soyons trop fiers de se faire baptiser comme le Seigneur nous le demande. La peur et le courage. Ensuite, la fidélité et la réussite, la fidélité à Dieu, n'a pas une garantie donc, de réussite dans cette vie. Ça doit être clair. De nouveau, selon ce que Jésus dit, on doit perdre notre vie afin de la gagner. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est bien cela, la dynamique au sein du royaume de Jésus-Christ. Jérémie ne cherchait pas l'approbation du roi ou des princes, mais l'approbation de Dieu. Ebed-Melech a placé sa confiance dans le Seigneur. Car il ne cherchait pas le confort d'une vie réussie avec une belle pension à Jérusalem. Ce n'est pas ce qu'ils sont anti-pension. Après tout, Jérémie possédait un bien dans le territoire de Benjamin, on a entendu, il comptait s'en occuper. Mais ce qui comptait pour lui, au-dessous de tout, c'était sa fidélité à ce que Dieu dit. C'était ça sa priorité. Loin de lui, une compréhension de son ministère en fonction des bénédictions matérielles qu'il recevait. Ça nous fait penser à Paul, l'apôtre Paul, dans Actes 20, lorsqu'il parle de son ministère aux anciens d'Éphèse. « Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alors, pouvons-nous dire que nous partageons la même conviction de ce qui compte, la fidélité à ce que Dieu nous dit au-dessus de toute autre chose? C'est ça une vie réussie selon Dieu. Pourquoi? Car pour finir, nous avons affaire à ces deux dernières qualités ou deux dernières choses que nous devons assimiler dans notre théologie. Le jugement et le salut. Car le jugement rattrape Sédécias au chapitre 39. On l'a lu. Sa famille, ses hommes de guerre. Tandis que Jérémie, il est protégé. Verset 12, que dit Nabucodonosor dans le chapitre 39? Prends-le, veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Jérémie, il est épargné, tout comme Ebed-Melech sera aussi délivré. Et à ce stade très sombre de l'histoire du peuple de l'Ancienne Alliance, il y a donc des lueurs d'espoir qui nous pointent vers les privilèges de la Nouvelle Alliance dont on a déjà entendu parler dans cette série. Car si Jérémie proclamait la parole de Dieu, ensuite est venu celui qui était la parole de Dieu, la parole faite chair. Celui dont sa parole est rejetée par les siens, car il leur dit, comme Jérémie, la vérité. Celui qui, comme Jérémie, est connu pour ses larmes et ses souffrances, celui qui doit apparaître, lui aussi, devant des rois, des chefs religieux, des gouverneurs, d'être accusé faussement de traître contre son propre peuple. Mais il y a aussi une différence très frappante de Jérémie et Jésus. Les méchants dans cette histoire que nous avons lue, le roi, ses fils, ses conseillers, tombent finalement sous le jugement de Dieu, sous la main de Nabucodonosor. Jérémie et Ebed-Melech, par contre, eux, ils sont épargnés. Mais Jésus, lui, innocent, il est mis à mort. Pas Hérode, pas Pilate, pas Félix, pas les scribes et les chefs des prêtres. Pas à ce stade, en tout cas, car le jugement final viendra. Mais Jésus, lui, le juste, l'innocent, il meurt sur la croix pour nous les injustes, afin de nous mener à Dieu. La punition qui nous donne la paix tombe sur lui. C'est ainsi qu'il, et c'est uniquement lui qui peut faire ça, qu'il nous sauve. pourvu qu'on se tourne, nous, chacun d'entre nous, vers lui. Celui qui, parce qu'il a en lui la vie de Dieu, car il révèle la vérité qui vient de Dieu, est le seul chemin vers Dieu. Jésus qui nous traite avec patience, avec compassion, encore aujourd'hui, si nous nous tournons vers lui, c'est pas trop tard. Parce que le Seigneur, comme il faisait à Sédécias, même une troisième fois, il nous appelle encore à lui aujourd'hui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, nous dit l'Évangile de Jean. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Soit Jésus, il prend sur lui la colère à notre place, face à notre rébellion. Soit nous, nous devons faire face à cette colère lorsque nous nous retrouvons sans être pardonnés devant le Dieu devant qui nous sommes redevables. Chers amis, que le Seigneur soit avec nous et que ses vérités soient enracinées en chacun d'entre nous. Prions. Le psaume 2 nous dit d'embrasser le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Combien, Seigneur, nous te louons que de par l'œuvre de Jésus, c'est encore possible de nous réfugier en lui. Et donc, donne à chacun d'entre nous de réfléchir à la lumière de ce que tu nous as dit ce matin, de ne pas entretenir une religion comme une couche de notre rébellion, de ne pas faire preuve de lâcheté dans notre façon de te mettre de côté, mais de plutôt faire preuve du courage, en sachant que celui qui perd sa vie pour toi aujourd'hui la gagnera. Et merci Seigneur de faire de nous un peuple fidèle à toi en toutes circonstances, mais aussi un peuple reconnaissant. Parce que si nous tenons debout dans notre foi, c'est parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Merci que Jésus est mort pour que nous puissions connaître le salut, la délivrance. Qu'il soit loué, Seigneur, dans nos vies, nous t'en prions. Amen.